CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte X, CEO Radio-du-bas. TV à mes côtés pour co-animer cette émission, Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inextenso Finance. Bonjour Marc.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Angeloglou, qui est le président de OSPI. Bonjour Jean-Baptiste.
Voilà.
Alors, vous êtes né en 1972, études de droit et de fiscalité, notamment à Panthéon-Assas. C'est votre premier job, c'était chez GEDIM, hein, souvenir de cette première expérience au pays de Jean-Claude Labrune, un bel entrepreneur.
Alors c'était un de mes premiers jobs, en réalité c'était le quatrième ou le cinquième, mais c'est vrai que celui-ci était le plus constituant, puisque c'est là que je suis tombé dans l'industrie pharmaceutique, si je peux le dire ainsi, et dans le milieu de la santé, et je suis tombé assez amoureux de ce milieu, de la qualité des rapports qu'on pouvait avoir avec l'industrie pharmaceutique, et puis de toute cette cause qui est portée par cette industrie.
Absolument, donc alors OSPI, racontez-nous, c'est le rapprochement de deux sociétés.
Alors, OSPI est effectivement le rapprochement de deux sociétés, donc ça a été créé il y a quelques mois, c'est tout chaud, et c'est le rapprochement d'une société qui s'appelait le groupe PSIH et de Collective Thinking, deux sociétés qui sévissent dans le milieu hospitalier.
Et aujourd'hui, donc, c'est une PME autour de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça?
Exactement.
Et vos métiers, quels sont-ils?
Alors, nos métiers, on est des experts de la donnée à l'hôpital. On sévit depuis 25 ans auprès des hôpitaux. On a aujourd'hui 65% des hôpitaux publics français qui travaillent avec nous et qui utilisent nos logiciels, nos solutions BI pour pouvoir exploiter leurs données et faire en sorte de pouvoir suivre, monitorer leur activité, mais aussi leur activité financière.
98 salariés, c'est facile de trouver des talents chez vous qui soient sympas, motivés, pas trop chers et fidèles?
C'est jamais très simple. Je pense qu'on a une grosse responsabilité aussi en tant qu'employeur et en tant que patron, sincèrement, sur l'esprit qu'on a dans une entreprise. Après, quand vous recrutez beaucoup de développeurs, c'est très compliqué parce que c'est sûr qu'ils sont extrêmement...
Ils ont quel âge en général?
On a tous les âges, mais enfin c'est vrai que ça va de 25 à 40 ans. Vous avez d'excellents profils extrêmement jeunes aussi, comme d'autres qui le sont moins. Mais enfin, disons que on va dire que la concurrence est rude.
Concurrence est rude. Et donc, vous travaillez à la fois avec le privé et le public, hein, les deux. Quoi. C'est pas trop compliqué, ça, de conjuguer les deux?
Effectivement, on travaille principalement avec l'hôpital public, un petit peu avec... l'hôpital privé et puis la société dont on s'est rapproché, elle, travaillait plus avec l'hôpital privé. C'est un petit peu spécifique, surtout en termes réglementaires. Bon, là, il faut rentrer dans des choses un petit peu techniques qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, il faut être, pour arriver à avoir des solutions qui sont adaptées, il faut véritablement travailler avec la connaissance des textes, des règles financières spécifiques, etc. Ce qui veut dire que côté PSIH, on était très hôpital public et on l'est toujours. Et côté collective thinking, il y a cette dimension privée. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir avoir les deux mondes. Et c'est vrai que la réunion des deux mondes peut être intéressant, notamment dans le cadre de la donnée, où là, si vous voulez avoir une représentativité de ce qui se passe à l'hôpital, ça peut être intéressant d'avoir effectivement le double scope.
Et Jean-Baptiste, donc l'entreprise est présente en France, mais aussi hors de nos frontières?
Alors l'entreprise est présente un tout petit peu en dehors de nos frontières. Mmh. On a une petite filiale où on a quelques développeurs au Canada pour des raisons historiques. Et puis, Collective Thinking a commencé à avoir quelques activités en Allemagne et en Suisse. Et tout ça est vraiment très embryonnaire.
Mais c'est la volonté de développer à l'international ou...
Oui, forcément. À partir du moment où vous parlez de données de santé, il peut y avoir un intérêt forcément à avoir cette capacité internationale, ne serait-ce que si vous pensez études cliniques ou si vous pensez données en vie réelle, forcément le fait d'aller sur d'autres pays pourra apporter beaucoup.
À l'entreprise. Marc?
Alors, une première question, avant de passer peut-être à des choses un peu plus financières, comment on convainc des médecins de s'intéresser à la data et à l'informatisation, à la digitalisation de leur métier?
Alors, la façon dont on les convainc, alors nous on parle surtout côté médecin vraiment, alors soit c'est les directions de l'information médicale qui eux traitent la donnée parce que c'est à partir des actes qu'ils vont qualifier que l'hôpital va être payé, donc ça j'allais dire, ils ont un intérêt forcément à la digitalisation, et puis les autres médecins auxquels on parle sont les KOL, les Key Opinion Leaders, les professeurs qui eux cherchent à avoir des publications, cherchent à faire des projets de recherche, et si vous arrivez à leur faire gagner du temps, si vous arrivez à leur dire voilà où est la donnée, voilà comment je peux t'apporter aussi l'aide de certaines structures pharma, en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait dynamique quoi, et qui le recherche.
Et on a beaucoup parlé de confidentialité, de gestion des données de santé du patient.
RGPD.
RGPD, de grands acteurs qui s'occupent de prise de rendez-vous en ligne, etc. Enfin, comment vous vous situez par rapport à cet environnement?
Alors, on vit complètement dedans, hein. C'est sûr que c'est un sujet qui est essentiel, en France comme ailleurs, mais c'est vrai que avec la CNIL, on est particulièrement bien lotis, et tant mieux pour nous en tant que citoyens. Donc, c'est sûr que, notamment si on parle de la donnée hospitalière, il faut qu'elle respecte énormément de contraintes, notamment évidemment RGPD, mais CNIL. Il y a aujourd'hui des référentiels, un référentiel CNIL qui a été fait pour les entrepôts de données de santé, où l'idée, c'est vraiment de dire, OK, pour qu'on puisse utiliser une donnée, il faut qu'elle soit pseudonymisée, il faut qu'elle ait cette typologie-là. Et après, si vous voulez sortir une donnée d'un établissement, il faut évidemment qu'elle soit anonymisée. Il faut évidemment qu'à aucun moyen on puisse revenir au patient, évidemment pour des raisons de confidentialité évidentes. Donc, cette dimension réglementaire, elle est effectivement dans tous les projets, elle est très importante.
Et donc, est-ce que cette dimension n'est pas un frein ou un obstacle à l'expansion que vous pourriez avoir à l'international? Puisque j'imagine que d'un pays à l'autre, la réglementation est globalement assez différente, même si le serment d'Hippocrate est peut-être le même, mais l'organisation des santé nationale est probablement différente.
Alors, la chance qu'on a, et je suis ironique évidemment, c'est qu'on est assez fort en la matière. Donc, en général, quand vous arrivez à faire en France, vous arrivez à faire dans pas mal de pays qui vont être un petit peu plus ouverts.
Vive la réglementation française.
Hey, ça s'empile, hein, ça s'arrête jamais. Hein.
Ouais, absolument.
Et enfin, je reviens, Alain l'évoquait tout à l'heure, sur le rapprochement qui a été à l'origine d'Hospi entre PSIH et Collective Thinking, il y a très peu de temps d'ailleurs. Au-delà de la stratégie, quel a été le rôle des fonds d'investissement dans cette création? Est-ce qu'ils sont des soutiens? Comment vous voyez aujourd'hui l'univers financier d'accompagnement dans ce monde de la santé qui vous concerne?
Bah, écoutez, nous déjà, le groupe PSIH a fait l'objet d'une recapitalisation il y a 2 ans. C'est à ce moment-là qu'ils sont allés me chercher pour prendre la direction de la boîte, puisque le fondateur voulait prendre un petit peu de recul opérationnel. Et vous avez 2 fonds d'investissement qui sont montés à bord. L'Oxera, qui a été créé par Pierre Moussiel, ancien CEO d'Urgo. Et puis, vous avez aussi Euraseo par leur fonds Neuf Santé, ainsi que Reliance, qui est l'assureur de l'hôpital public. Au début, on m'avait dit, Jean-Baptiste, tu vas voir, prépare-toi, parce que c'est du court terme, c'est chaud, c'est tendu, beaucoup de reporting. Alors, c'est une certitude, ces notions-là existent, mais vous avez un soutien incroyable, et effectivement, ils ont été incrémentaux, aussi bien dans l'identification de ce partenaire que dans la mise en musique de ce partenariat et de ce rapprochement. Donc, ils sont, au-delà du fait qu'il y a une dimension humaine assez incroyable dans ce fonds-là, véritablement, on bosse main dans la main, de façon, véritablement business et opérationnelle.
Et qu'est-ce qui vous manque pour devenir une ETI? Il a aujourd'hui 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour arriver à 50, qu'est-ce qui manque? Des clients.
Ouais, il va falloir qu'on vende un petit peu plus. Écoutez, en fait, je pense que le marché a un potentiel considérable. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça. Donc, ce qui nous manque, c'est de l'énergie, c'est de la.
Vous en avez quand même de l'énergie, hein,
pas mal.
Marc.
Et enfin, dans cette énergie, il y a de la croissance externe potentielle pour des activités comme la vôtre. Il y a d'autres acteurs qui sont présents sur votre secteur.
Toujours. Et puis là aussi, le travail des fonds est assez remarquable. Donc, il y a un training permanent des pauses opportunités. Donc oui, je vous confirme que voilà, on va pas s'arrêter là, même si c'est sûr que une intégration et un rapprochement, c'est du boulot, et puis c'est aussi apprendre à travailler ensemble.
Jean-Baptiste, le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'une entreprise ou programmateur dans une salle de concert?
Évidemment, programmateur d'une salle de concert.
Vous êtes un dingue de musique?
Je suis un dingue de musique depuis toujours.
Vous aimez quoi comme musique?
Voilà, j'aime beaucoup les musiques électroniques, j'aime beaucoup les musiques alternatives.
Vous avez quel âge déjà là?
J'ai quel âge?
Ouais.
51 ans. En fait, la French Touch, vous voyez, Laurent Garnier, c'était quand j'avais 25 ans.
Et alors, côté cuisine, la meilleure cuisine du monde, elle est française ou asiatique?
C'est un peu compliqué. Je suis un fanatique des deux, mais je pense que je mange plus asiatique que
français. Asiatique, ouais. Vous avez des pays en particulier? Parce qu'entre la Corée et le Japon, c'est pas du tout la même chose, quoi.
Je dois avouer que j'ai une fascination pour la cuisine thaïlandaise, mais bon, j'aime beaucoup les cuisines très épicées aussi, donc
vous aimez un bon petit vin? Vous avez un petit coup de cœur pour un vin nature, m'a-t-on dit?
Oui, j'aime bien les vins nature.
Il est bien doux, alors, parce
qu'au début, ils m'ont un petit peu surpris.
Il y a des surprenants,
c'est vrai. Ouais, il y a eu beaucoup de débats sur des dîners entiers, et puis finalement, déjà, la première chose, c'est comme il y a mets pas trop de sulfite, et ben, en fin de compte, ça me fait moins mal à la tête. C'est bête, mais. Et puis l'autre, surtout, c'est que, ben, on se régale, et puis c'est des choses nouvelles, il y a des potentiels incroyables à développer. Il faut pas faire n'importe quoi. Donc vous avez des très belles maisons comme Maîtrasse, Coton, du Fêtre, et j'en passe, c'est des meilleurs qui font un boulot incroyable, surtout dans la région du Beaujolais, parce que j'adore les crus du Beaujolais.
C'est bien, il faut les encourager, ce sont des vins merveilleux. Et pour terminer, vous soutenez des causes caritatives, humanitaires, vous à titre personnel ou via l'entreprise?
Bah, via l'entreprise, par exemple, on a fait une action tout simplement pour récolter des fonds après la suite des séismes au Maroc, parce que je trouvais ça très très important d'être proche de nos amis marocains. Et puis, à titre personnel, sur plusieurs choses, j'essaie d'aider à ma manière sur plusieurs petites associations.
Un nom peut-être, non? Une association que vous aimez à titre personnel?
Plan, par exemple. Plan, c'est une association où vous parrainez un enfant dans un pays et vous l'aidez en fait à arriver jusqu'à sa scolarisation. Et une fois qu'il est lancé, à ce moment-là, vous pouvez changer de filleul et j'aime beaucoup cette idée.
Merci beaucoup Jean-Baptiste, merci beaucoup Marc. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur les comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Inextenso Finance.